Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Curious Live, l'émission des étudiants du Master en stratégie de communication internationale. Nous vous souhaitons la bienvenue pour le troisième épisode de cette saison sur le thème de la communication inclusive. Flavien et moi sommes aujourd'hui accompagnés de Marie-Thérèse Pugliese, directrice du dispositif Institut d'éducation motrice chez APF France Handicap. Cette année, la 27e Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap se tiendra du 20 au 26 novembre partout en France et portera sur la thématique « La transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap ». Pour l'occasion, nous avons décidé ce mois-ci de consacrer cette émission à la représentation de ces personnes et à la façon de les inclure davantage dans l'espace public. Constituant 20% de la population française, les personnes en situation de handicap sont souvent sous-représentées dans l'espace public. Et pour nous en parler, nous sommes justement accompagnés de Ève, notre camarade. Bonjour Ève, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet ?
Bonjour Léa. Alors au niveau communicationnel, une étude Kantar, publiée en janvier 2022 et réalisée pour ComENT, a montré que moins de 1% des publicités intègrent le handicap dans leur campagne, sur une période d'étude de 25 ans. Un chiffre extrêmement faible lorsqu'on sait qu'actuellement 20% des Français seraient déclarés en situation de handicap visible et invisible.
C'est un chiffre très faible en effet. Mais alors comment les personnes qui sont directement concernées par le handicap jugent les informations qui leur sont destinées ?
Eh bien justement, nous avons interviewé Olivia Boileau, qui est une étudiante malvoyante à l'Université de Bourgogne. Selon elle, il y a peu d'adaptations. On est mal informé sur les aides et sur les solutions mises en place, dit-elle. Il est nécessaire également, selon Olivia, d'avoir plus de traductions en braille ou d'écrire plus gros, par exemple. Elle ajoute, je cite, « Cependant, les logiciels de synthèse vocale s'avèrent très utiles pour transcrire les messages, les descriptions de photos, etc. et me permettent d'utiliser un téléphone comme tout le monde. On se sent plus inclus. » En effet, certains réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram, ont mis en place depuis 2021 un système de description détaillée des photos et de leurs légendes grâce à la reconnaissance visuelle qui s'appuie notamment sur l'intelligence artificielle. Ces démarches de la part des différentes plateformes semblent ainsi tendre vers une amélioration de l'accessibilité aux personnes malvoyantes et aveugles.
Merci Eve. Je me tourne maintenant vers Marie-Thérèse Pugliese. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du dispositif Institut d'éducation motrice chez APF France Handicap, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci de votre présence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les enjeux d'une communication autour du handicap et comment notamment combattre les stéréotypes qui sont perpétués depuis plusieurs générations ?
Les enjeux de la communication sur le handicap sont cruciaux pour promouvoir une société plus inclusive et combattre les stéréotypes. La communication est essentielle. C'est vrai que les stéréotypes sont souvent perpétrés par manque de compréhension, de communication, par aussi méconnaissance. On ne se connaît pas. C'est vrai que le terme d'inclusion me gêne un petit peu. Je l'ai dit dernièrement, on a l'impression qu'on vit dans deux mondes différents. Le fait de dire on vit dans le monde ordinaire, le monde du handicap, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, nous sommes tous citoyens de ce même monde avec nos différences et il faut apprendre à vivre avec ces différences. Il me semble qu'il est essentiel de montrer, moi je crois l'exemplarité, de montrer des exemples de réussite de personnes qui se dépassent, qui dépassent leur handicap en se réalisant soit dans le milieu professionnel, soit dans le milieu sportif et dans la vie de tous les jours. Nous avons eu l'occasion dans mon établissement d'organiser un salon de l'autonomie et du matériel le 14 octobre dernier et ça nous a permis d'interviewer des exemples de personnes durant ce salon. Donc, je vais citer par exemple Valentin Dution, qui est un jeune homme de 28 ans polyhandicapé et qui a fondé une entreprise qui s'appelle le Regard Français. C'est une marque solidaire de vêtements. Il a réalisé une entreprise avec les valeurs qui lui sont propres. On a interviewé un jeune homme, Fatih Kuadar, qui est un jeune espoir du handball fauteuil à Lons-le-Saunier et qui est dans la section élite France. On a interviewé Franck Paget, qui est un accidenté de la route. Souvent, les personnes qui sont accidentées de la route se réalisent dans le sport. Et donc, lui, c'est pareil. Il est champion du monde d'Europe et de France de duathlon, champion du monde et de France de triathlon, vainqueur de l'Ironman de Vichy, par exemple. Et puis, je citerai aussi deux femmes, Olivia Chaloin, dont le handicap est invisible et qui lui a posé de nombreux problèmes. Elle a débuté comme professeure des écoles et ce ne sont pas les élèves qui lui ont posé problème, ce sont les parents. C'est le regard des parents qui a été compliqué. et qui aujourd'hui parcourt le monde sur un vélo couché à trois roues. Et prochainement, elle va parcourir 5600 km sur 6 mois en Australie. Et enfin, Maud de Montigny, qui toute sa vie a vécu pas mal d'épreuves et qui a été diagnostiquée autiste Asperger, qui est atteinte aussi d'une malformation à l'oreille interne, et qui aussi se dépasse par la course, le sport, et qui va bientôt, au mois d'avril, traverser le Jura en 2 jours, 400 km en 2 jours. Voilà des beaux exemples qui nous démontrent que le handicap peut être dépassé.
Des beaux exemples de réussite, en effet. On voit toute la complexité qui réside autour de la communication sur le handicap. Et ce qui pourrait être intéressant au niveau des entreprises, notamment des agences de communication, ça serait de créer un lien avec ces personnes au niveau des communications pour essayer au mieux de ne pas propager ces stéréotypes ou de ne pas être offensant. Et il y a plusieurs agences de communication françaises qui le font déjà, qui sont spécialisées dans le handicap, comme par exemple Econovia ou Comme une différence. Mais c'est un domaine qui reste encore très encadré, avec pas mal de lois. Et Flavien, est-ce que vous pouvez nous en parler justement de toutes ces obligations en termes de politique d'inclusion et d'accessibilité par exemple ?
Bien justement, au niveau des entreprises, l'OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, elle enjoint tout employeur de 20 salariés ou plus à engager des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. Mais on voit que les chiffres de 2021 de la DARES, la Direction de l'Animation, de la Recherche, des Études et des Statistiques, ils soulignent que selon 29% des entreprises concernées, eh bien, elles respectent cette obligation. Ça témoigne ainsi de l'effort qui est encore conséquent de leur part à produire pour faciliter l'accessibilité à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Alors en dehors des obligations légales et judiciaires qui contraignent les médias à s'adapter, il y a aussi, de la part des plateformes de divertissement, un besoin de s'adapter à l'évolution des mœurs pour conserver leur public. Ève, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de films et de séries ?
Alors effectivement, on remarque depuis plusieurs années que les séries et les films mettent en avant des personnes en situation de handicap et ces handicaps sont plus ou moins variés. Ainsi, le pourcentage de contenu qui inclut du handicap a augmenté de 175% au cours de la dernière décennie. Par exemple, la série Good Doctor met en scène un jeune médecin interne qui est atteint du syndrome d'Asperger, un type d'autisme qui se caractérise notamment par une grande intelligence, des difficultés à communiquer et à créer des liens sociaux. Quant au film, on peut par exemple citer le film français La famille Bélier, qui est sorti en 2014, et qui témoigne de la façon de s'adapter au sein de sa famille quand tous les autres membres sont en situation de handicap. Dans ce film, Paula, qui a 16 ans et qui est la protagoniste du film, assure le rôle essentiel d'interprète au quotidien pour ses parents et son frère qui sont sourds.
Alors dans le film, justement, l'héroïne principale est interprétée par la chanteuse Louane. Elle reprend la chanson « Je vole » de Michel Sardou et elle la traduit en langue des signes française à sa famille. Et cette chanson, nous vous proposons de l'écouter dès maintenant sur RCF en Bourgogne. A tout de suite.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a la gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, m'école. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la.
C'est le MAG sur RCF en Bourgogne, Léa Simonet.
Nous sommes de retour dans Curious Live, l'émission des étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale. Nous vous parlions avant la pause de la représentation des personnes en situation de handicap dans le domaine de la fiction, mais en dehors de la fiction, il est aussi intéressant de s'intéresser à la représentation de ces mêmes personnes dans les médias. Flavien, un mot à nous dire à ce propos ?
Justement, dans les médias, on remarque que leur présence est davantage notable ces derniers temps, à l'image de l'émission « Les rencontres du Papotin ». C'est une adaptation du journal Le Papotin, où les rédacteurs, atteints du trouble du spectre de l'autisme, ils reçoivent à chaque numéro une personnalité médiatique pour lui poser des questions à la fois spontanées et opposées aux interviews classiques. L'émission est programmée le samedi soir, et du coup, elle profite d'une forte audience, et ça contribue à la mise en lumière de leur travail. D'un autre côté, on peut aussi parler de la médiatisation des Jeux Paralympiques, qui est croissante depuis les années 2000. Cette médiatisation, elle a contribué à mettre en avant les exploits sportifs des personnes à mobilité réduite, chose qui était encore inédite auparavant. Pour preuve, pour les prochains Jeux Paralympiques de Paris, pour la première fois, tous les sports seront diffusés en direct et gratuitement, ce qui représentera plus de 300 heures de couverture télévisée.
Et au niveau des marques, alors on en est où ?
Au niveau des marques, on peut remarquer que ces dernières années, une progression et plus d'engagement dans certains secteurs. Pour rester dans le sport, justement, la publicité « Le sport rend le monde meilleur » de Decathlon, qui est sortie en 2021, on peut voir qu'elle met en scène un match de basket avec des joueurs handisport. On remarque ainsi une volonté de Decathlon qui s'engage dans une démarche d'inclusion de tous les sportifs.
Mais alors, Eve, est-ce que vous pouvez nous parler du concept de l'handi-washing ? Parce que tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que les entreprises prennent réellement une visibilité du handicap ou est-ce qu'il s'agit simplement d'opportunisme ?
Alors effectivement, il se peut que cet effort vers plus de représentation soit en réalité ce qu'on appelle du handi-washing. Ça désigne le fait de mettre en avant des personnes en situation de handicap de la part des entreprises sans pour autant qu'elles adaptent leur système ou leur façon de faire. L'intérêt des marques et entreprises dans ce cas-là serait donc d'améliorer leur image et de faire davantage de profit. Mais il ne faut pas voir le mal partout, de nombreuses entreprises le font pour la bonne cause et s'inscrivent dans une démarche honnête d'inclusion.
On a vu à travers tous ces exemples que la représentation des personnes en situation de handicap dans l'audiovisuel est en train d'évoluer. Mais il peut aussi être intéressant de se pencher sur la manière dont les institutions pour le handicap elles-mêmes communiquent auprès du grand public. Madame Pugliese, pensez-vous que les institutions pour le handicap, justement, ont les moyens de sensibiliser à la question ? Quels moyens, en fonction des objectifs et des cibles définies, bien évidemment, faudrait-il alors mettre en place ?
Évidemment, les campagnes de sensibilisation sont le premier moyen auquel on pense. Des campagnes éducatives, parce qu'il y a aussi ce besoin, encore une fois, je le répète, de mieux se connaître et de mieux être informé. Ensuite, la formation, offrir des formations aussi professionnelles dans les divers secteurs pour que les personnes soient mieux préparées à répondre aux besoins des personnes handicapées, en situation de handicap. sachant que les personnes en situation de handicap n'ont pas accès forcément au diplôme, mais qu'on pourrait plutôt prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire déjà voir quelles sont les compétences de ces personnes qu'elles pourraient mettre au service des entreprises et comment ces entreprises pourraient les accueillir dans le mode d'apprentissage pour permettre que ces personnes puissent apprendre, par exemple, des gestes répétés dans le cadre d'une chaîne ou puissent faire en sorte que leurs compétences soient utilisées à bon escient dans l'entreprise. Le fait de plaider pour des politiques aussi publiques et pour l'amélioration de l'accessibilité des espaces publics, l'action politique est importante, même au niveau local. On a des exemples en Côte d'Or de villages où le maire a décidé du jour au lendemain que son village serait accessible à toute personne en situation de handicap, et y compris aux personnes à mobilité réduite, il ne faut pas l'oublier. Hein, et donc, ça, il a pu le mettre en place. Et puis, encourager aussi la participation des personnes en situation de handicap de manière active, que leur parole soit entendue. On parle de plus en plus d'autodétermination. Il faut arrêter de penser à leur place, tout simplement. Donc, je fais référence à Julia Boivin, qui est une personne en situation de handicap et qui est conférencière. Je vous invite à aller la chercher sur les réseaux sociaux, qui en parle très, très bien. Et enfin, créer des partenariats, collaborer avec d'autres organisations et le secteur privé pour maximiser l'impact des efforts de sensibilisation. Je pense à des institutions, enfin des organismes comme la CPME, Made in Jura dans le Jura par exemple, mais voilà, et plein d'autres institutions qui peuvent sensibiliser sur ces sujets et être des acteurs importants.
Merci beaucoup. À titre d'exemple, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous essayez de développer précisément chez APF France Handicap ?
Alors APF France Handicap, pour votre information, est une association qui a fêté ses 90 ans, qui a été créée par des personnes en situation de handicap pour des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ce sont encore des personnes en situation de handicap qui sont à la tête du conseil d'administration. Et APF, depuis 2000, tous les 5 ans, c'est par quinquennat, développe des projets qui sont nos feuilles de route au niveau national pour agir, pour continuer d'agir au niveau institutionnel, au niveau de nos politiques. Donc de 2000 à 2005, c'était le projet s'appelait Ensemble Agir. Ensuite, de 2006 à 2011, on a eu Acteurs et Citoyens. De 2012 à 2017, on a eu Bouger les lignes. Et le prochain, c'est pouvoir d'agir, pouvoir choisir avec l'effectivité des droits. Parce que plus que jamais, il faut continuer à défendre les droits des personnes en situation de handicap. Et c'est là l'essentiel du combat de APF France Handicap. Et du coup, ce discours, nous le déclinons au niveau régional et au niveau départemental. Et encore une fois, dans chacun des établissements, on essaie de travailler ensemble avec aussi les familles et les adhérents de APF France Handicap.
C'est beaucoup, beaucoup de beaux projets. Merci beaucoup. Un autre aspect dont on peut parler aussi, qui est en lien direct avec le thème de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap de cette année, c'est la communication digitale du handicap. Flavien, vous pouvez nous en parler ?
Alors, en termes de communication digitale, on remarque qu'il y a certaines chaînes de télé françaises qui commencent à mettre en place des solutions adaptatives. C'est le cas, par exemple, de Canal+, qui va lancer 10 titles en 2025. Et 10 titles, c'est quoi ? C'est des sous-titres adaptés, accessibles aux personnes atteintes de troubles en 10, à l'image de la dyslexie. C'est un projet qui comprend des lettres plus grosses avec de nouveaux contours blancs à l'intérieur. Cette typographie particulière, elle est censée permettre aux personnes dyslexiques, je cite, d'appréhender les sous-titres grâce à un design qui correspond à la manière dont leur cerveau perçoit les lettres, selon l'orthophoniste et neuropsychologue Béatrice Sauvageau. Mais on peut aussi mentionner les supports de communication qui utilisent le FALC, comprenez, facile à lire et à comprendre. C'est un procédé qui consiste à simplifier un message avec une syntaxe, un vocabulaire et une mise en page adaptée, ce qui permet aux personnes en situation de handicap ou bien celles qui maîtrisent mal la langue française de mieux la comprendre. C'est l'association Inclusion Europe qui rend possible la diffusion de l'outil, un outil qui est aujourd'hui essentiel, car selon l'APHJH, l'association pour adultes et jeunes handicapés, aujourd'hui une personne sur 10 ne comprend pas toujours le sens des messages. Le FALC est alors incontournable pour toute information destinée au grand public, à l'image des messages diffusés par le gouvernement par exemple.
Merci beaucoup Flavien. Merci beaucoup Ève, et un grand merci également à vous Marie-Thérèse Pugliès d'avoir été aujourd'hui en plateau avec nous. C'est déjà la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver en replay sur rcf.fr, rubrique culture sous le nom C'est le mag étudiant Massy. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le thème du handicap dans le secteur de la communication, n'hésitez pas à aller visiter notre blog, le Curious Blog, sur junioragencemassy.fr/blog. Quant à nous, on se retrouve le 14 décembre prochain à 18h10 sur RCF en Bourgogne pour échanger sur une nouvelle thématique en rapport avec la communication inclusive. Belle soirée à tous! Votre programme continue sur RCF en Bourgogne, la suite de C'est le Mag avec votre journal local.